Béarn Campagne, bonjour. Dernière étape dans les Hautes-Pyrénées. Une initiative dont j'aurais pu vous parler en détail pour ouvrir cette édition, dont je signale ici l'existence, est le Comptoir de Service, jeune association créée en janvier dernier à Tarbes par des habitants du quartier Laubadière et dont le slogan est « Les habitants se mobilisent pour leur emploi ». À partir d'une enquête menée dans ce quartier par les habitants eux-mêmes, des besoins non satisfaits ont été identifiés. C'est sous cette forme de conciergerie que les services aujourd'hui sont créés pour répondre à des besoins bien particuliers et besoins des personnes comme des entreprises. 5 structures de l'ESS ont porté le dispositif qui propose des coups de main pour du bricolage, des livraisons, des aides administratives et informatiques, des visites aussi auprès des personnes isolées. Le collectif est composé de 23 habitants bénévoles. Il a salarié une personne afin de lancer la conciergerie et il dispose d'un local qu'il souhaite aménager. Un appel au mécénat d'entreprise est d'ailleurs en cours pour améliorer, diversifier les activités. Par ailleurs, le comptoir a adhéré à l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Voilà une belle idée. Invité de ce dernier numéro hautement pyrénéen, Adeline Deleuzet de l'association Ansema, qui fait un travail remarquable depuis plus de 30 ans en France et dans son antenne départementale pour l'enseignement qu'elle offre aux enfants malades, à lire l'article de Madeleine Verdier dans les pages numériques de La Vie. Et Marc Bruning, qui dirige l'Office départemental des sports des Hautes-Pyrénées pour l'opération originale Croque-Montagne.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Adeline Deleuzet, bonjour.
Bonjour.
On aime beaucoup Ansema. C'est une belle association qui appartient à un réseau, donc de la Fédération pour l'enseignement des malades à domicile ou à l'hôpital. Une soixantaine d'antennes en France. La vôtre est née en 87.
Oui, c'est ça. Donc, ça fait plus de 30 ans. Et en 30 ans, en fait, nous avons suivi plus de 1400 élèves. Mmh. Donc, c'est quand même du travail qui a été réalisé. Et je tiens à dire que ça montre aussi, malheureusement, la carence de la puissance publique et donc le besoin constant en France de bénévoles et d'associations. Par exemple, il y a 2 ans, le ministère de l'Éducation donne des heures supplémentaires aux inspections académiques de chaque département pour que des professeurs puissent assurer l'enseignement auprès des enfants malades. Et la dotation annuelle a été de 80 heures, ce qui a permis de suivre une enfant sur le département pendant une année scolaire. Mmh. Et pendant ce temps, nous avons suivi 45 enfants.
Oui, ça donne un écart, parce que la réalité, donc vous dites 45 enfants en moyenne chaque année, c'est 600 cours pour un total de 800 heures de cours, 89 interventions, 50 enseignants bénévoles à destination d'enfants, d'adolescents, de jeunes, malades, à domicile ou hospitalisés.
Oui, c'est ça. Nous donnons aux enfants malades les cours que leurs compagnons reçoivent dans leur établissement d'origine pendant leur maladie. Et nous avons 3 sortes d'interventions, donc des interventions de quelques semaines liées à des maladies ou des accidents légers, une chute de cheval, 2 vertèbres cassées à la suite d'un accident de luge. Il s'agit juste en fait de répondre à un besoin ponctuel et très ciblé, en lien étroit avec l'établissement d'origine le plus souvent. Mmh. Mais le plus intéressant du travail pour nous et le plus prenant, c'est que nous avons le plus souvent affaire à de longues interventions qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, avec des publics très ouverts et très différents. Donc nous suivons des élèves malades, soit organiquement, atteints dans leur corps par des maladies graves et longues, soit des maladies psychologiques, des tentatives de suicide, des dépressions très graves. Donc c'est un public en détresse. Et notre association intervient du début de l'école primaire jusqu'au BTS. Hein.
Oui. Alors Adeline, vous avez émis une petite critique à l'égard de la puissance publique en disant que vous interveniez dans les carences de la puissance publique. Est-ce que vous êtes toutefois en relation avec les établissements scolaires dont dépendent les enfants? Et est-ce que vous avez de ce fait une reconnaissance de l'éducation nationale?
Oui, alors merci de me faire préciser. Quand je parle de puissance publique, je veux dire au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire, je dis qu'un président de la République qui dit qu'il va faire du handicap le point fort de sa campagne ne réalise pas toujours dans les actes ses paroles. Voilà, ça c'est ce que j'entends par puissance publique. Au niveau local, nous travaillons en étroite concertation et avec les établissements d'origine des enfants et avec les autorités et équipes médicales. Par exemple, à l'hôpital psychiatrique, on ne rentre que quand le psychiatre en chef a donné son feu ouvert et dit que l'enfant était capable de recevoir des cours.
Mmh. Des familles concernées qui vous entendent ont quel moyen de vous joindre ?
En téléphonant à l'association dont les coordonnées sont publiques dans le département et en nous envoyant un message mail. Hein, donc nous avons une coordinatrice dont le rôle est essentiel puisque c'est elle qui reçoit les demandes des familles, qui leur cherche des intervenants, qui prévient justement tout ce qui est autorité administrative. Éventuellement, nous montons des projets avec l'inspection académique quand il faut aller repêcher des déscolarisés. Donc elle a un rôle vraiment essentiel de coordination entre tous les adultes qui aident l'enfant malade à travailler malgré la contrainte de sa maladie.
Oui. Alors on fait savoir aux parents que votre association existe, qu'il y a une fédération, une soixantaine d'antennes comme la vôtre, en SEMA des Hautes-Pyrénées, il n'y a pas de problème, en SEMA.fr pour l'adresse, et vous cherchez toujours des intervenants, des bénévoles.
Oui, nous sommes en grand manque de bénévoles, donc il y a des disciplines que nous n'assurons pas. Et que vous, amis auditeurs, vous puissiez entendre et savoir que, par exemple, un médecin à la retraite peut enseigner la biologie aussi bien qu'un professeur des sciences de la vie et de la terre, qu'un ingénieur qui a du temps, parce qu'il travaille à mi-temps les 5 dernières années, par exemple, peut enseigner les maths et la physique en faisant justement comprendre les applications pratiques directement à l'élève et donc le passionné. Que quelqu'un qui est d'origine allemande ou anglaise ou espagnol pour donner des cours de langue. Nous cherchons vraiment des adultes ayant fait des études supérieures, de bonne volonté, dans toutes les disciplines.
Ouais. Et puis vous avez eu le coup de pouce des étudiants en système numérique de Tarbes pour reconditionner votre site web qui marche plein feu maintenant en sema.fr pour l'adresse. Merci Adeline.
Merci à vous de nous avoir écoutés et merci de l'aide que vous nous apportez.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Les plus démunis, à qui on sert hélas des steaks frauduleux, quel scandale, bénéficient de structures d'aide et d'insertion. Heureusement, il y en a de très belles, comme celle de Solidar Meubles à Tarbes, qui s'est spécialisée, comme le nom l'indique, dans la rénovation et la réparation de mobilier. Solidar Meubles répond, comme à d'autres ateliers ou entreprises d'insertion, aux commandes des marchés publics et répond aussi aux demandes des particuliers. La rénovation du mobilier, dont on peut juger la qualité sur le site, est toujours réalisée sur mesure et l'État assuré à l'ancienne, dans les règles de l'art, grâce à l'encadrement de 3 salariés. Le résultat est vraiment très probant. Le site, c'est restauration, trait d'union meubles, trait d'union tarbes.fr. Marc Bruning, bonjour.
Bonjour Philippe.
Marc, vous dirigez l'Office départemental des sports de Haute-Pyrénées. Vous êtes à l'origine, c'était à l'occasion d'ailleurs des 50 ans du Parc national des Pyrénées il y a 2 ans, à l'origine d'opérations de sensibilisation des randonneurs en haute montagne sur la qualité des produits utilisés au niveau nutrition, hydratation et surtout le réflexe refuge. C'était lié à une constatation d'accidents de montagne
Oui, effectivement, en échangeant avec nos collègues secouristes, qu'ils soient gendarmes du PGHM de Pierre Fitness Talas ou CRS Pyrénées, on a constaté que régulièrement il y a des secours en montagne qui sont déclenchés pour des déshydratations, des coups de chaleur, des hypoglycémies. Or voilà typiquement des défaillances qui pourraient être prévenues par le respect de quelques règles basiques, mais que malheureusement beaucoup de randonneurs méconnaissent. Donc voilà, on est parti de ce constat, on se dit qu'est-ce que l'on peut imaginer pour sensibiliser les randonneurs, leur rappeler qu'il y a tout de même dans les Hautes-Pyrénées une vingtaine de refuges qui sont à leur service. Mmh. Et pour un randonneur, aller vers le refuge, ça devrait être quelque chose de spontané, pour se ravitailler, au lieu de se surcharger de nourriture avec des sacs à dos qui sont une entrave quasiment à leur progression, peut-être avoir un sac à dos bien plus léger. En revanche, ne surtout pas économiser sur l'eau, parce que malheureusement, souvent les randonneurs font le choix de mettre beaucoup de nourriture et trop peu d'eau dans leur sac à dos. Voilà, donc ce sont des choses tout à fait simples, mais qu'il est bon de rappeler. Et puis encore une fois, le refuge en montagne, c'est un lieu, je dirais, qui est précieux pour le randonneur, qui est un lieu de sécurité, un lieu de service. C'est absolument pas un snack bar d'altitude. C'est un lieu qui a vraiment été raisonné dans son implantation parce qu'il correspond stratégiquement à la desserte d'un grand massif pour des grimpeurs ou des randonneurs qui sont sur des grands itinéraires de traversée des Pyrénées, par exemple. Donc voilà, rappeler le rôle fondamental des refuges en haute montagne.
Sans parler d'un tourisme de masse, quoique, vous avez une idée l'été du nombre de personnes qui fréquentent vos montagnes des Hautes-Pyrénées ?
Alors, malheureusement, on n'a pas de comptage. On sait qu'il y a 18 millions de randonneurs en France, occasionnels, pas tous en montagne ou en haute montagne, mais ce qui est flagrant, c'est qu'il y a depuis quelques années, et notamment depuis qu'il y a eu des épisodes de canicule, de plus en plus de randonneurs, parce qu'ils cherchent un milieu qui soit frais le matin, le soir. On profite effectivement en montagne de la fraîcheur. Mais pendant la journée, on peut souffrir fortement de la chaleur. Donc on peut constater effectivement qu'il y a une fréquentation qui s'accroît et corrélativement des personnes qui ne sont pas tellement montagnardes, qui sont attirées par la montagne, mais c'est un milieu particulier avec des exigences liées à l'altitude. On se déshydrate plus vite en altitude, il y a des besoins spécifiques qu'on a souhaité justement rappeler. Et les gardiens sont d'excellents relais puisque nous, évidemment, lorsque nous allons dans les refuges, nous ne touchons directement que les personnes présentes le jour de notre intervention, mais les gardiens deviennent des relais de l'opération pour que les randonneurs se fassent plaisir avant tout, mais vraiment qu'ils évitent les erreurs majeures qui peuvent malheureusement se payer cash en montagne.
Oui. Et puis merci aussi pour l'entretien des espaces naturels, ça c'est important. L'opération s'appelle Croque Montagne, elle consiste chaque été à ce que des membres de votre office, ainsi que des secouristes et des nutritionnistes, interviennent avant de dîner dans les refuges.
Voilà, exactement. Donc les randonneurs sont dans le refuge, ils sont disponibles avant le dîner. On va leur parler, oui, de nutrition, oui, d'hydratation, on va répondre à leurs questions, on va être dans le pragmatique, le concret, le facile à appliquer, parce que le randonneur, c'est aussi une cible pour le marketing, et on a tendance à lui faire croire que tel ou tel produit, soi-disant hyper énergétique, va répondre à ses besoins. Non, nous, notre discours, c'est de revenir à des choses simples, des choses saines, qu'on va justement pouvoir trouver en refuge, et pas forcément des produits coûteux et suremballés, qui sont autant de déchets potentiels qu'on peut retrouver en montagne. Donc la bonne stratégie, c'est un sac à dos avec le nécessaire évidemment pour se nourrir pendant la randonnée, mais sans excès. Surtout ne pas lésiner sur l'eau. Idéalement, c'est un demi-litre par heure de marche l'été. Et bien identifier les refuges où on peut justement aller se ravitailler tant en nourriture qu'en boisson.
Vous allez trouver un lien avec l'Office départemental des sports de Haute-Pyrénées pour pouvoir suivre donc cette opération. Notez bien avec la vingtaine de refuges qui peuvent vous accueillir pour vous offrir abri et qualité alimentaire et surtout eau si vous en avez besoin lorsque vous allez vous balader dans les hauteurs, surtout lorsqu'il fait très chaud. ODS65, la page Facebook également. Merci Marc.
Merci beaucoup Philippe.
La semaine prochaine, nous serons dans le Gers, terre de festival, mais terre d'initiative aussi, comme vous le comprendrez. Et ensuite, nous parcourrons la Haute-Marne et la Côte d'Or. Et puis, je continue à lancer mes appels pour des dénonciations positives en provenance des Ardennes, des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Merci à Anne Yoro, à Joël Levert, Henri Bérec à la technique aujourd'hui.